Nahiri Boudet, c'est le plaisir de vous retrouver avec cette chronique. Et c'est vrai, nous partons un peu à l'aventure à chaque fois dans ces chroniques et nous nous posons beaucoup de questions et nous en sortons toujours avec une belle réflexion. Et ça, c'est toujours passionnant. Nahiri Boudet, le sujet de votre chronique, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Eh bien, aujourd'hui, je souhaitais que l'on parle de pornographie. De pornographie dans son ensemble, c'est-à-dire la consultation de pornographie, mais aussi l'addiction, ce que ça peut faire aux personnes, ce que ça peut faire aux couples, ce qu'une consommation excessive et une conduite addictive peut faire donc à la personne et au couple.
Alors, dès qu'on dit pornographie, automatiquement, on se dit bon, on est dans une dimension qui ne touche pas forcément tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Eh bien, moi, j'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé justement que la pornographie, ça touche tout le monde. En tout cas, tout le monde en a déjà entendu parler, vu au moins de loin. Évidemment, personne, enfin, pas tout le monde, a une consommation quotidienne. Néanmoins, la consommation de pornographie interroge. Et ce qui, moi, m'interpelle, c'est que souvent, on se pose la question de la consommation de pornographie des adolescents, voire des enfants, mais rarement des adultes. Et à mon cabinet, je reçois des adultes qui sont parfois aux prises avec la pornographie, qui ont du mal à s'en détacher. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que ça fait aux adultes, pas tant des enfants et adolescents, déjà parce que plein d'autres personnes se sont exprimées à ce sujet, et aussi parce que j'ai l'impression que on en parle souvent avec inquiétude vis-à-vis de ce que ça peut faire aux enfants et adolescents, mais pas de la manière dont ça peut être vécu par les adultes. Or, je reçois à mon cabinet pas mal de messieurs, par exemple, qui m'ont dit avoir parfois des troubles de l'érection ou des difficultés à être dans le moment présent avec leur compagne parce qu'elle n'avait pas un physique qui correspondait aux vidéos qu'ils consultent. Et là où c'est un petit peu plus pervers, je dirais, mais pas dans le sens du jugement, mais dans le sens où on se fait avoir, c'est qu'on choisit aussi la pornographie que l'on veut regarder. On tape certains mots-clés, on fait des recherches, on fait défiler des vidéos ou des photos. Et donc, effectivement, il y a cette quête aussi du corps parfait, il y a cette quête de l'image parfaite qui va produire un effet sur moi. Et effectivement, la réalité est différente. Pas que les femmes de la vraie vie, entre guillemets, soient moins belles. Hein. Là encore, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais en tout cas, forcément, le corps n'est pas mis en scène de la même manière puisque ce n'est pas du cinéma.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est addict à la pornographie ? Parce que bon, est-ce qu'on vit dans le fantasme ? Est-ce qu'on a une vie parallèle ? Comment ça se détermine, ça ?
Ce qui est intéressant quand on parle d'addiction à la pornographie, c'est qu'il faut penser au mécanisme d'addiction tout court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va ressentir soit une très grande joie qu'elle ne sait pas comment gérer, qu'elle ne sait pas comment appréhender. Autrement dit, qu'est-ce que je peux faire de cette intensité qui me traverse ? Intensité qui est bonne, mais aussi intensité qui est mauvaise. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, les personnes vont soit, classiquement, je vais dire, aller consommer du cannabis, une cigarette, de l'alcool, de la drogue et de la pornographie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été la personne a pu observer que ça lui permettait de faire descendre, de faire baisser l'intensité de l'émotion négative ou positive, mais plus souvent négative, la sensation d'angoisse. Et donc, si ça a marché, une fois, ou en tout cas si on a l'impression que ça a marché parce qu'il y a un shoot de plénitude qui est ressenti, à ce moment-là, c'est mis en mémoire quelque part par le cerveau et donc forcément, la personne va s'en souvenir. Alors là où c'est intéressant, puisque tout à l'heure, je vous parlais des enfants et des adolescents, c'est que jusqu'à 25 ans, le cerveau n'est pas formé, ce qui ne signifie pas que les enfants et les ados sont débiles. Hein. C'est juste que certains sont même très, très vifs, enfin même tous et plein de créativité, mais en tout cas le cerveau n'a pas fini d'être formé au niveau des connexions par exemple et donc au niveau du mécanisme de plaisir, de la prise de plaisir, ça peut affecter la personne dans son développement. C'est-à-dire que la personne particulièrement va se souvenir du shoot d'adrénaline ou du shoot de plaisir qui aurait été ressenti suite à la prise de substances ou de pornographie, si on reste avec ce type de langage, et ne va pas oublier ce qui a suivi après. Le sentiment de culpabilité, le sentiment d'être sale, etc., qui appartient quand même aussi à la mécanique de l'addiction. L'addiction est à la sexualité, à la pornographie, est à distinguer de l'hypersexualité. C'est-à-dire qu'on peut être dans un comportement hypersexuel, avoir une sexualité très riche ou avoir une vie carrément organisée autour de la sexualité, conjugalement ou juste individuellement, sans forcément ressentir ce manque, sans forcément se sentir mal si on n'a pas pris le shoot, ou se sentir mal même après le shoot, à partir du moment où les émotions négatives reviennent.
La pornographie, bon, nous sommes dans le domaine, je disais, du fantasme, dans le domaine de l'irréel. Physiquement, la jouissance, est-ce qu'elle doit arriver enfin? Est-ce qu'elle reste mentale? Est-ce qu'il faut qu'elle soit physique? Comment ça se passe?
Eh bien justement, vous parliez de l'addiction. Qu'est-ce qui fait l'addiction? Eh bien certaines personnes, des hommes souvent, en tout cas ce sont eux que je reçois à mon cabinet pour ces problématiques-là, n'arrivent pas à avoir d'orgasme, par exemple aussi. C'est-à-dire que certains sont tellement à la recherche de l'émotion, de l'image, de la chose qui va déclencher l'orgasme qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il faut lâcher prise pour arriver à l'orgasme. Or, cette quête les maintient dans un état d'hypervigilance et de stress. Donc, on peut ne pas avoir d'orgasme, on peut aussi être justement à la poursuite de ces orgasmes afin justement d'éprouver ce sentiment de libération après l'orgasme et se sentir temporairement libéré des choses qui nous affectaient. Ce sont des personnes qui vont avoir un rapport à la sexualité, mais aussi donc à la jouissance et aussi à la réassurance particulier. Donc des personnes qui vont être anxieuses ou qui ont connu, qui ont eu des vécus douloureux avec beaucoup des choses un peu difficiles qui ont été vécues, voire carrément traumatiques.
Et le couple dans tout ça, la pornographie, elle se pratique à deux, comment ça fonctionne?
Dans la plupart des couples avec lesquels je travaille, la pornographie est plutôt consultée individuellement. Ce qui ne veut pas dire que c'est fait forcément en secret. Mais quelques couples avec lesquels j'ai travaillé consultaient de la pornographie ensemble, ou en tout cas, je me souviens d'un couple avec lequel je travaillais. Donc, madame avait des difficultés à être excitée, et là, effectivement, monsieur avait suggéré qu'il puisse consulter de la pornographie. Mais ça n'avait pas marché, sans surprise, puisque en fait, ce n'est pas la pornographie elle-même qui est excitante, ou en tout cas, les images en elles-mêmes, mais la manière dont on va pouvoir investir ces images. Donc l'idée, c'est plutôt d'élaborer un imaginaire érotique, si on n'en a pas. Et cet imaginaire érotique, on va le rendre vivant avec ces images. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a quelque chose d'irréel et d'imaginaire dans la pornographie, mais au contraire, moi je dirais que c'est ce qui rend tangible, en fait, ce qu'il y a dans l'imaginaire. Mais j'entends que par là, vous vouliez dire peut-être que ça n'est pas la réalité. Mais c'est difficile parfois de faire la différence entre ce qui relève du cinéma et de la réalité, puisque justement, ce qui a de plus en plus de succès, c'est le porno dit amateur. Et donc, fait à la maison, avec les moyens du bord, genre, je mets des guillemets, alors qu'en fait, ce sont des productions cinématographiques. Mais du coup, ça rend plus flou, en fait, la frontière entre le quotidien et le cinéma.
Justement, dans la pornographie, le rôle de la femme, il n'est pas toujours très valorisé.
Effectivement, c'est un discours qu'on entend beaucoup. J'écoutais la dernière fois un psychiatre spécialiste des addictions qui s'appelle Laurent Carilla, qui parlait aussi de l'addiction au sexe. Lui disait que beaucoup de personnes aujourd'hui, enfin beaucoup d'hommes consultent des vidéos avec des femmes soumises, attachées, qui se reçoivent de l'urine dessus, ou en tout cas qui subissent des pratiques bien particulières. Je ne suis pas sûre, en tout cas, que ce soit le type de pornographie le plus fréquemment consulté. En tout cas, au dire des personnes que je reçois à mon cabinet. Ce qui est intéressant aussi, si on va faire un tour sur les films porno, c'est que sur les sites pornographiques, on verra que les vidéos les plus proposées ne sont pas de ce type-là non plus. Il y a des algorithmes, en fait, sur ces sites qui prennent en compte quelles sont les recherches les plus fréquemment faites et en fonction, des productions vont être engagées. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent pour ces sites-là ont à cœur de produire des vidéos qui vont avoir le plus de vues, forcément. Donc, ils essaient de voir aussi quelles sont les vidéos les plus consultées. Pour revenir à ce que vous disiez, la soumission de la femme. Je dirais que beaucoup de vidéos présentent les femmes comme étant passives. Je pense aussi à un couple avec lequel je travaille. Madame disait qu'elle avait été choquée de lire les titres des vidéos que monsieur consultait. Des titres tels que « Il a baisé sa belle-fille » ou « Vieux grand-père qui abuse d'une jeune fille, d'une jeune adolescente ». Il y a souvent, ça joue avec les codes de l'inceste aussi. Stepmother, de la belle-mère, cette figure à la fois proche et distante, excitante. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est interrogé aussi au niveau de ces titres-là. Parce que manifestement, comme je vous le disais tout à l'heure, les producteurs ont à cœur de produire des vidéos qui vont attirer du monde. Manifestement, ces vidéos-là attirent du monde. Donc on peut se questionner aussi sur qu'est-ce qui peut conduire les personnes à consulter ces vidéos-là avec des titres de cette nature. Mais soumission de la femme, vraiment, j'entends qu'on ne met pas forcément les femmes au premier plan, quoique, puisqu'on présente souvent les femmes au premier plan, mais par leur corps. C'est-à-dire que leur corps est objectifié et présenté comme une espèce de cadeau au regard des hommes. Et là, j'ai envie de faire le parallèle finalement avec la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que les femmes apprennent à être désirables et à être regardées et désirées par les hommes qui, eux, apprennent à désirer. Donc, je dirais que c'est presque une continuité. Je n'ai pas forcément un regard alarmant sur la pornographie. Pour moi, ça devient problématique à partir du moment où ça pollue l'imaginaire de la personne, l'imaginaire érotique de la personne qui n'arrive plus à avoir des relations sexuelles détachées de ces images-là, qui n'arrive pas à jouir sans consulter ce type d'image. Et des personnes qui ont besoin de s'atteler à cette tâche-là pour se déstresser. C'est plutôt à cet endroit-là que je pense que c'est problématique. Mais oui, bien sûr, il y a des images, enfin, à tous les coups, enfin, moi je n'en ai jamais vu, mais avec de la zoophilie ou des choses atroces, mais je ne suis pas sûre que ce soit les choses plus consultées. Enfin, si on va comme ça, je crois que sur YouTube, on peut trouver des vidéos sales d'accidents de personnes qui se font découper, rouler dessus. Donc, oui, sur Internet, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait éviter de regarder ou de diffuser déjà.
Je reviens sur le sujet de la pornographie et l'adolescence. Il n'y a pas une façon quand même très négative de percevoir ces images et d'en faire ensuite une forme de blocage, une forme de complexe d'infériorité, parce qu'on voit des effets, on voit de très belles femmes, vous le disiez tout à l'heure, des corps parfaits et tout est presque chirurgical.
Oui, bien sûr, je pense, mais là aussi, encore une fois, pas qu'aux adolescents, aux hommes adultes aussi, qui peuvent se questionner à propos de la taille de leur pénis ou de leur endurance. Tout à l'heure, vous me parliez de soumission de la femme. Donc, effectivement, il y a des injonctions qui pèsent sur les femmes dans le milieu de la pornographie, d'avoir certains types de corps. Mais pour les hommes, des injonctions pèsent aussi sur la taille du pénis, Et aussi au niveau, bien sûr, de l'endurance, c'est quelque chose qui revient souvent dans les consultations des hommes qui me disent qu'ils ne durent pas assez longtemps et qui ont cela comme inquiétude de ne pas suffisamment faire jouir justement leur compagne, comme c'est le cas d'ailleurs dans les films pornographiques, puisqu'on entend souvent les femmes s'exprimer bruyamment tellement elles prennent du plaisir avec ces hommes-là. Et du côté des femmes, il y a aussi une comparaison au niveau du corps, mais là encore pour moi, c'est juste caricaturé. Mais cette comparaison entre femmes, je crois que malheureusement, elle se fait aussi dans la vie de tous les jours. Et justement, il y avait une chercheuse en anthropologie qui parlait de bitchage, de bitch pour salope, c'est-à-dire cette pratique de tenir des propos pas sympa sur le corps des autres. Oh, tu as vu comme elle est pas épilée, celle-là, comme elle est grosse, tu as vu ses cheveux blancs, je ne sais pas. Donc, c'est cette pratique de comparaison, effectivement, elle n'est que plus forte avec les films porno. Mais même si on regarde avec ce que j'appelle les magazines à la con, de type Public ou Closer, que je lisais moi-même quand j'étais plus jeune, hein, qui encourage justement à la comparaison entre femmes. Et ça, oui, effectivement, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal parce que ça crée aussi des inhibitions chez ces femmes-là qui regrettent ce qu'elles suspectent être une addiction à la pornographie chez leurs compagnons. Elles disent mais moi je ne veux pas, tant qu'il consultera tout ça, je ne veux pas faire l'amour avec lui, je ne veux pas qu'il me voie. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il va sur ces sites-là alors que moi je suis là et dispo et que j'ai envie d'être avec lui. Mais en fait ça ne répond pas au même besoin, ce n'est pas la même recherche. Il y a, comme on le disait au début de cet entretien, avec quand il s'agit d'addiction réelle, la personne recherche un soulagement. Le problème, c'est que ce n'est que temporaire. Donc, quelques heures après, quand je m'ennuie ou que j'ai une émotion négative, j'y retourne pour à nouveau me sentir vivant, me sentir exister, me sentir moins stressée. Et après, ça redescend. Ce n'est pas la même recherche. Bien sûr, si on parle d'addiction dans la sexualité, à ce moment-là, on peut retrouver cette même mécanique dans la sexualité avec un partenaire. Et d'ailleurs, je parle beaucoup du comportement des hommes, mais on retrouve quelque part un peu de ça dans le comportement des femmes qui vont être dans une recherche effrénée de séduction. C'est-à-dire ce besoin de se sentir exister, rassurer, quand elles se sentent désirables et désirables dans le regard des hommes, puisque nous vivons dans une société hétéronormée.
Est-ce qu'on peut sortir de cette addiction, sortir de l'addiction à la pornographie ?
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je fais ce métier de sexothérapeute et de thérapeute de couple, mais forcément, il va falloir réfléchir, accepter en fait de penser aux raisons qui conduisent à consulter la pornographie et pas juste de se dire oh mais oui mais c'est comme ça, c'est mon compagnon ou ma compagne qui m'embête ou être dans le déni, qui rappelons-le est un mécanisme de défense inconscient, donc ce n'est pas choisi, mais on peut, mais va falloir accepter de s'interroger sur sa pratique. Il va falloir accepter de penser ce que l'addiction peut venir penser, PANSER, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient soigner, entre gros guillemets, puisque comme on le disait tout à l'heure, malheureusement, le répit n'est que temporaire. Ce qui est important à ajouter, c'est que la consultation de pornographie est essentiellement masculine, mais de nombreuses femmes en consultent aussi. Peut-être bien moins, c'est certain, mais des femmes en consultent tout de même. Et en tout cas, pas avec le même type de recherche. Et chez les hommes, étant donné qu'on vit dans une société dans laquelle les hommes ont appris à penser la sexualité en termes de besoins, forcément la recherche de plaisir dans la pornographie ne va pas être la même.
Eh bien voilà, je vois que notre émission, notre chronique se termine à Iri Boudet. Pour les personnes qui sont interpellées, qui ont des questions à vous poser, qui aimeraient vous rencontrer.
Déjà, je remercie tout le monde pour leur écoute. Et oui, je suis disponible en consultation à mes cabinets de Gap et de Sisteron dans la zone commerciale où je travaille tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. Je vous dis donc à bientôt et au mois prochain.